On poursuit avec le maire de Châteauguay, M. Éric Allard, pour ce qui est de la plus récente séance du conseil municipal en date du 9 décembre. Maintenant, plusieurs sujets là-dedans. En premier, on va amorcer tout ça en parlant d'environnement.
Oui, il y a plusieurs mesures qu'on met en place. En fait, la ville doit se conformer au plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, le PMGMR, qui vient de la CMM. Puis la CMM, lui, a élaboré ce plan-là à partir de la loi sur la qualité de l'environnement. Bref, c'est des choses qu'on doit implanter. Il y a plusieurs mesures qu'on doit maintenant, qu'on a ajoutées à notre réglementation. La première, c'est, en fait, elles sont numérotées hein, dans le plan de la CMM. Donc, la mesure numéro 2, on doit l'implanter. C'est interdire la distribution de certains articles à usage unique. Ça s'adresse aux restaurateurs. Donc, les assiettes, les contenants et couvercles en plastique, les usages uniques, toutes ces choses-là vont devenir interdites. Donc on doit se conformer. La mesure numéro 3, c'est encadrer la distribution d'imprimés publicitaires. Donc, il n'y aurait plus de publicitaires, il n'y aurait plus de circulaires qui peuvent être distribués. Et une nouvelle chose qui vient avec ce plan de la CMM, c'est que la ville doit fournir à la demande aux citoyens des pictogrammes à mettre sur la boîte aux lettres, à l'intérieur de la boîte aux lettres ou à l'extérieur. Parce que par défaut, il n'y aura pas de distribution, mais ça va être encore possible d'en recevoir si vous avez le pictogramme sur votre boîte aux lettres. Donc, si vous le demandez, là, vous allez pouvoir recevoir
Donc, de facto, si t'as rien, c'est parce que tu veux rien.
Exactement. Si tu veux rien comme publicité, t'as rien à faire. Mais si tu veux avoir la publication, les circulaires, le publicitaire...
Ben, ça m'apparaît logique là, que ça soit articulé.
C'est ça qu'on met en place. Après ça, c'est ceux-là qui vont être le plus difficile parce qu'il va falloir changer radicalement nos habitudes, quoi qu'on devrait déjà être là. La mesure 15, il va interdire de jeter les matières recyclables avec les matières destinées à l'élimination. La mesure 20, interdire de jeter les matières organiques avec les matières destinées à l'élimination. Et 20, interdire de jeter les résidus visés par un programme de récupération dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs des matières destinées à l'élimination. Ça, c'est la mesure 26. En gros, oui. Ce qui va dans le bac brun doit aller dans le bac brun. Ce qui va dans le bac bleu doit aller dans le bac bleu. Vous ne pouvez plus mettre ça dans les poubelles. Ça va être dorénavant interdit. Là, je me suis fait poser la question lors de la séance, comment on va faire pour venir renforcer ça. C'est une excellente question. Pour le moment, on doit se conformer à cette orientation-là de la CMM. L'objectif, c'est où est-ce que c'est recyclable, qu'on le recycle, puis le compost également, qu'on le fasse. Il faut renforcer cette mesure-là, parce que quand on fait du recyclage ou on fait du compost, il y a des redevances qui viennent à la ville. Donc, on est capable de réutiliser, on est capable de distribuer du compost. C'est bien, c'est bon pour l'environnement. Donc, c'est des mesures qu'on va devoir renforcer le plus possible. La MRC va devoir faire des programmes de communication pour expliquer le tout à tout le monde, pour être sûr que ça soit appliqué, que ça soit respecté. On doit faire des modifications chacun dans nos maisons. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui disent des fois « Ah, c'est un paquet de troubles, ils le mettent dans les poubelles. » Bon, mais il va falloir qu'on fasse attention à cet élément-là. Il va falloir faire attention à ce qu'on met dans le bac de recyclage parce que c'est pas vrai que parce que c'est en plastique que ça va dans le recyclage. Il y a des plastiques qui sont pas recyclables. Il y a des codes, il y a des... Donc, bref, il y a de la communication.
Parce qu'il y en a carrément qui vont dire qu'il y a une pièce de viande, ça va dans le compostage, mais ils le mettent avec le paquet.
C'est ça, exact. Fait que ça, c'est les mesures qui viennent du plan de la CMM. Les autres choses qu'on a mis en place, c'est qu'on vient encadrer aussi l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc. Parce qu'il y a des gens encore, qu'on le croit ou on le croit pas, il y a des gens encore qui vident leur piscine, qui vident leur spa à tous les ans, au lieu d'utiliser les produits pour nettoyer leur eau. Fait qu'il va avoir l'obligation de garder ça propre, de contrôler les odeurs et surtout de ne pas gaspiller l'eau là-dedans. Donc, le vidage annuel, là, c'est terminé, il faut arrêter ça. Il y a des cas d'exception. Si quelqu'un doit changer sa toile, évidemment, c'est difficile de changer sa toile de piscine sans la vider. Il y a des choses comme ça, il faut être logique, mais en même temps, il faut arrêter de gaspiller cette eau-là. Et l'autre chose, qui est un peu plus environnementale aussi, c'est un dossier que ça fait longtemps qu'on travaille. C'est dans le secteur de la rue Emmeridge. Il y a un marais à cet endroit-là où est-ce qu'il y a des inondations. Quand il y a beaucoup de pluie, l'eau ne s'écoule pas. Quand le projet était fait à la base, le marais qui était là était utilisé pour l'eau de pluie. Donc, ce qui venait des maisons, du réseau d'égouts pluviales, s'écoulait dans le marais. Dans le marais, il y avait un chemin qui s'en allait à notre bassin de rétention sur le boulevard Saint-Francis, pour vous situer, c'est dans quel secteur. Sauf qu'avec le temps, il y a eu de la phragmite qui a poussé dans le marais. L'eau ne circulait plus comme il faut et on n'avait pas l'autorisation d'aller nettoyer la phragmite. Donc, l'eau restait dans la rue, venait inonder des maisons, Donc, on attendait, ça faisait longtemps, l'autorisation ministérielle pour aller dans le marais. On n'a pas eu l'autorisation d'aller refaire les chemins originaux, mais on a eu l'autorisation de venir faire une tranchée, un fossé qui va suivre la rue puis qui va nous emmener jusque...
Une zone de contournement.
Oui, c'est ça, exactement, pour essayer de réduire les possibilités d'inondation dans ce secteur-là. À partir du moment où c'est un marais, c'est un milieu humide, on le sait, les villes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais vraiment pas. C'est hyper encadré par le ministère de l'Environnement. On a dû faire des études, des inventaires, des plantes qui étaient là, des inventaires, des insectes. Il a fallu faire tellement de choses. Fait, à tous ceux qui essaient de faire à croire qu'on peut faire ce qu'on veut, ces milieux humides, là, ben, il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi parce que celui-là, les maisons sont inondées. Il y avait des inondations. On n'était même pas capable d'aller agir parce que c'est trop encadré. Trop ou assez encadré. Bref, c'est pas si simple que ça. Fait qu'ici, on est bien heureux. On va être capable, enfin, de pouvoir aller agir et venir soulager l'inquiétude des citoyens dans ce secteur-là quand il y avait des grandes pluies ou on arrivait au printemps.
Bon, on va enchaîner en parlant du parc Moïse-Préjean. Là, vous avez des informations là-dessus?
Bien, en fait, la maison Moïse-Préjean, c'est une vieille maison qui est dans la ville. La ville l'avait achetée plusieurs années et franchement, est en train de tomber. On va se rappeler malheureusement l'événement triste que quelqu'un, il y a eu un incendie puis il y a quelqu'un qui est décédé. On a eu un rapport du coroner qui nous demande de la démolir. On a eu des avis d'ingénieurs qui nous demandent également de la démolir. Nous, on va la déconstruire. On va essayer de garder le plus possible d'éléments qui sont patrimoniaux. On va essayer de faire quelque chose qui est intéressant pour justement se rappeler de ce qui était là. De cette maison-là, puis le passé, Moïse-Préjean.
À côté du musée Le Paillard?
On ne sait pas exactement. Oui, exactement, c'est ça. On va essayer de garder des éléments pour essayer de rendre ça intéressant. Puis pour faire ça, on a décidé que tout ce secteur-là, donc le terrain de la maison, le terrain de l'autre côté de Haute-Rivière, tout le bord de l'eau, il existe déjà le parc Moïse-Préjean où est-ce qu'il y a des gens qui vont jouer à la pétanque. On vient agrandir ce parc-là. On vient le délimiter. Vous dites ça, là, tout le bord de l'eau, tout le terrain où est-ce que la maison Moïse-Préjean, ça devient un parc. Après ça, on va commencer à travailler pour comment on fait le parc. On a déjà consulté les gens à la maison Le Pailleur pour être capable de le faire avec eux. On a des discussions avec les gens de la famille. Bref, c'est quelque chose qu'on fait attention. Ça ne s'est pas fait super rapidement parce que, justement, c'est délicat. Ça, c'est vraiment une maison qui est patrimoniale. Il y a un historique en arrière de tout ça. Mais bref, on vient changer l'endroit pour le rendre parc et espace vert. Donc, il va y avoir quelque chose d'intéressant qu'on va faire à cet endroit-là.
Il est question aussi de création d'un poste de développement commercial aussi.
Bien, en effet, la ville de Châteauguay, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup. Hein. Le développement commercial, c'est quelque chose qui doit être travaillé. En fait, c'est un élément qui sortait quand on a élaboré notre plan stratégique. C'est une des choses qui sortait le plus. On a décidé, on avait fait beaucoup de travail quand même. Il y a beaucoup de travail qui se fait présentement pour essayer de faire du développement commercial. Il y a quand même des nouveaux commerces qui sont venus s'installer. Il faut les favoriser. Moi, je fais une campagne le plus possible pour favoriser l'achat local. Et je pense que la ville fait des efforts également pour favoriser l'achat local. Tout le monde devrait favoriser l'achat local parce que c'est pas vrai que Amazon va venir aider leur communauté à Châteauguay quand il y arrive des événements, mais les commerçants qui sont ici le font. Ils font partie de notre communauté. Il faut les encourager. Mais tout ça pour dire qu'on trouve ça important de faire le développement commercial. Donc, on a décidé de créer un nouveau poste de développement commercial à la ville. Donc, cette personne-là va avoir comme tâche, un, de faire du maillage entre les commerces, entre les industries qu'on a ici, mais également de favoriser le développement commercial. Donc, on a des endroits où il faut qu'il y ait plus de développement commercial. C'est sûr qu'on va tous penser au faubourg. Ça fait partie de l'équation. Donc, on veut absolument avoir une meilleure vitalité commerciale. On a des obstacles à la ville qu'on rencontre pour le commerce et il faut qu'on trouve des moyens de passer par-dessus ces obstacles-là et de réussir à avancer et de favoriser le développement commercial et d'avoir une plus belle offre dans la ville de commerce de proximité ou de commerce de destination.
Selon vous, quels sont les principaux obstacles? Bon, là, je crois que vous l'avez mentionné, il y a Amazon qui en est un, mais est-ce que vous...
Bien, c'est sûr que le commerce en ligne, ça en est un. Puis, ouais. Et bien souvent, les gens, ils ne vont pas voir ce qu'il y a ici. ils vont tout de suite en disant « Moi, je vais au magasin au 10-30, c'est plus simple. » Alors qu'il y a des commerces juste pour des vêtements. Il y en a des commerces de vêtements intéressants. Je suis allé en visiter un il n'y a pas tellement longtemps. C'est Victor Victoria dans le centre commercial. Je sais que le centre commercial, il est pas aussi vivant qu'il l'a déjà été. Mais ce commerce-là, il est super intéressant. Il y en a des boutiques vraiment intéressantes dans le centre commercial. Il y a la boutique Tisseur sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je veux dire, il y en a plusieurs.
Effectivement.
Qu'on pourrait aller voir avant d'aller tout de suite ailleurs. Mais juste ce réflexe-là d'aller voir ce qu'on a chez nous, ça va aider les commerçants d'ici. C'est eux autres qui investissent dans leur ville, qui investissent dans leur communauté. Fait que ça, l'achat en ligne, là, malheureusement, ça a été accentué avec la pandémie. On se souvient que on était quasiment des super-héros si on faisait tout en ligne, alors que ça nuit à notre commerce local.
Mais peut-être envisager peut-être un regroupement ou trouver une façon de regrouper ces, je ne sais pas, comme un panier bleu, mais Châteauguay, parce qu'on sait ce qui est arrivé avec le panier bleu. Peut-être trouver une avenue qui pourrait être plus facile pour les gens.
Mais c'est quelque chose que j'ai essayé de former. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de former ce comité-là, puis on a contacté des commerçants pour qu'ils s'impliquent. Au départ, il y en a qui me disent oui, après ça, ils changent d'idée. Fait que ce comité-là, la création de ce comité-là a été remise à deux occasions présentement. Je trouve ça triste, mais je pense qu'avec la venue de quelqu'un spécialisé en développement commercial, ça va venir nous donner un coup de main supplémentaire. Il y a la Chambre de commerce qui va venir s'impliquer également. Il faut absolument, absolument que les gens favorisent les entreprises locales. Il faut qu'on réalise à quel point c'est important.
Ça prend quelqu'un d'expérience et quelqu'un qui maîtrise bien la matière, pas juste des gens qui ont plein de bonne volonté. On veut essayer de faire quelque chose, mais ça prend quelqu'un pour nous montrer la route.
C'est ça. Et en parallèle avec tout ça, avec la création de ce poste-là, on a aussi fait une demande à la MRC de Roussillon au Fonds de développement des communautés. C'est un fonds qui existe, toutes les villes y ont accès. Et nous, on a fait il y a deux projets, mais celui-là, le premier, c'est justement de demander le financement pour une étude de l'état de santé de l'offre commerciale de la ville. Fait que ça va se faire en parallèle. La MRC a comme mandat le développement commercial. Fait que c'est sûr qu'on va aller les voir aussi, mais on tient à avoir quand même localement quelque chose qui va se mettre en place pour favoriser le développement commercial. Donc, le poste, l'étude qui va se faire en parallèle. Bref, on t'arrête de mettre beaucoup de choses en place pour essayer de le favoriser le plus possible. Un petit clin d'œil, dans le même fond, on va avoir, en partenariat avec Héritage, le spot du développement commercial, mais on va avoir une nouvelle terrasse au pavillon de Lille. On va refaire la terrasse grâce à ce fonds-là également, en partenariat entre la ville et Héritage Saint-Bernard. En fait, c'est Héritage Saint-Bernard qui sont venus me voir avec ce projet-là. Je le trouve drôlement intéressant.
On va compléter en parlant de nomination pour ce qui est des noms de rue. Alors, on a du développement. On va donc devoir trouver des nouveaux noms. Alors, vous avez travaillé là-dessus, là, développer des thématiques.
Bien, en fait, lors de la séance, on avait trois nouveaux noms, mais je trouvais ça quand même intéressant de revenir sur les dernières décisions qu'on a prises là-dessus.
Ouais.
C'est une orientation qu'on avait faite en disant, c'est le fun de donner des noms de rue. Je vais vous donner le premier exemple, je vais prendre lui pour le situer. Il y a une nouvelle rue qui devait s'appeler la rue de Vinci. C'est dans le quartier des savants, des scientifiques. Ouais. Puis on se disait, Monsieur de Vinci, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais il n'a rien fait pour la ville de Châteauguay. Donc, on s'est dit, ce serait le fun de trouver des gens qui ont eu une influence dans la ville
de Châteauguay. Comme M. Hubert Reeves?
M. Reeves, il était à Liry, il n'était pas à Châteauguay.
Oui, c'est vrai.
Mais ce qu'on a trouvé, c'est dans ce cas-là, mais je vais énumérer les autres après, c'est M. Raymond McNeil. M. Raymond McNeil, ça fait quelques années qu'il est décédé, mais quand même, c'est un biologiste, un chercheur. Il a travaillé, entre autres, dans l'inventaire mycologique du Centre écologique Fernand Séguin et du Corridor vert. C'est un éminent spécialiste dans ce monde-là. La mycologie, c'est les champignons. Bref, il a participé à l'inventaire. C'est un scientifique. Et c'est quelqu'un qui est à Châteauguay, donc c'est parfait, c'est le quartier des scientifiques, c'est quelqu'un qui a un lien, puis qui a eu un impact dans la ville de Châteauguay, donc on a nommé la rue Raymond McNeil en son honneur. Ça, c'est un exemple de l'orientation qu'on s'était donnée, qu'il faut que ce soit des gens qui ont un impact à Châteauguay, on trouve ça important, on est une ville qui a fêté son 350e, il n'y a pas tellement longtemps, il faut être fier de notre histoire, il faut être fier de notre patrimoine pour essayer de le faire ressortir. Évidemment, moi, je fais un petit résumé de ce que M. McNeil a fait, mais sur le site web de la ville, on va avoir un peu plus informations, c'est assez évident. On a fait lundi également deux autres noms. On a la rue Louis Demers, c'est le secteur de la Bergerie, c'est un secteur où est-ce qu'il va y avoir un petit développement résidentiel à cet endroit-là. C'est dans le coin de la rue Melba. La rue Melba fait un L, ouais. On est obligé de créer une nouvelle rue, même si ça aurait dû être Melba, c'est trop compliqué, ça fait un L. L'autre côté, ça va être la rue Louis Demers. Louis Demers, c'est un notaire. Pendant plusieurs années, c'était le seul notaire de Châteauguay jusqu'en 1820, quand le notaire Le Pailleur, c'est un nom qui nous dit quelque chose, hein, ouais, est arrivé. Bref, c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire de Châteauguay. Après ça, il y a une autre rue dans ce même quartier-là, ça va être la rue Elmer Coffin. Elmer Coffin, c'est un bénévole émérite dans la ville de Châteauguay. Pendant plus de 20 ans, il était l'organisateur, entre autres, des festivités de la fête du Canada. Il a participé à l'élaboration des fêtes de la parade irlandaise, si je me souviens bien. Bref, il est impliqué dans plusieurs organisations. C'est quelqu'un que les gens connaissent bien, donc on a nommé une rue à son nom. Ça, c'est ce qu'on a fait lundi. Mais je trouve ça quand même intéressant de revenir sur ce qu'on a fait. On en a déjà des
Il y en a déjà, là.
Il y en a déjà qu'on a fait avec des gens influents dans la ville de Châteauguay. On a eu, entre autres, c'est dans le même secteur que la rue Raymond McNeil, là, lui, c'est un parc, le parc Thomas Leblanc. Thomas Leblanc, on le connaît sous le nom de Tom Leblanc, exactement. C'est un monsieur qui était impliqué beaucoup dans la ville de Châteauguay. Il a créé, entre autres, les Ailes de Châteauguay, le club de hockey junior. Il est impliqué beaucoup dans le monde du hockey, donc on a mis un parc en son nom. On a également, vis-à-vis le petit bout de rue du nouveau terminus d'autobus, peut-être qu'ils vont avoir des développements éventuellement, mais de toute façon, c'est pas grave. Pour le moment, la petite rue où est-ce qu'on tourne pour se rendre au stationnement, bien, cette rue-là s'appelle la rue Jacques Turcot.
Quel sympathique bonhomme.
En effet. Jacques Turcot, c'est un photographe qui était bien connu dans la région.
Bien, c'est pas loin de sa résidence.
C'est pas loin d'où est-ce qu'il habitait. Ouais. C'était exactement en face d'où son studio de photographie était. Fait que c'était un endroit vraiment intéressant. Donc, cette rue-là s'appelle la rue Jacques Turcot. Il a, entre autres, fondé la Chambre de commerce de Châteauguay à l'époque avec d'autres personnes très influente, qu'un jour, il va falloir qu'on envisage également de nommer des rues à leur nom. On a aussi la rue, c'est une nouvelle rue qui est en construction présentement dans le parc industriel, c'est la rue Hans Zimmermann.
Ben là, on peut pas passer à côté. Là,
c'est quand même ça. Hans Zimmermann, c'est lui qui est à l'origine de l'entreprise CMP. Anciennement, ça s'appelait Châteauguay Machine Park. C'est devenu juste CMP. Il avait beaucoup investi dans la ville. Le premier skatepark de Châteauguay, c'est un investissement de M. Zimmermann qui était venu acheter les installations. Puis ça famille poursuit la tradition. On a juste à penser justement dans le même secteur, le parc du 350e CMP. C'est M. Steve Zimmerman qui est venu investir. C'est sa famille. Bref, c'est des gens qui sont extrêmement influents puis qui ont participé à la communauté à Châteauguay. On trouvait ça important de les souligner. Et ben, le dernier, en fait, c'est le chemin de service de l'autoroute 30, le fameux chemin de service qui va s'appeler le chemin Alexis Sauvageau. C'est un ancien marchand. Ça date de plusieurs années. Lui, on en avait déjà parlé, mais je voulais juste faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Puis il va en avoir d'autres. On trouve ça important de souligner.
Bien, je salue cette initiative-là. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, qui mieux que nous-mêmes habiter notre histoire dans nos rues.
Exact.
Bravo. Excellent. Bien, voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous visiter puis nous jaser de ce qui se passe du côté de la salle du conseil. Alors, on a résumé, en somme, le budget et la séance ordinaire du 9 décembre à la salle du conseil. Monsieur le maire, merci beaucoup, puis on va se revoir en 2025.
Oui, mais je voudrais justement prendre un petit moment pour souhaiter un très joyeux Noël, une nouvelle année 2025 remplie de bonheur. J'espère que 2024 a bien été pour tout le monde. Je souhaite de très joyeuses fêtes à l'ensemble des gens, et je leur rappelle que c'est le fête. C'est moi, je suis président d'honneur pour la quatrième fois de la campagne d'Opération Nez Rouge, donc je rappelle aux gens d'appeler Opération Nez Rouge chez le fête. C'est correct que tout le monde soit festif, mais prenez pas de risques ridicules qui peuvent mettre votre vie en danger ou celle des autres. Appelez Opération Nez Rouge, ils sont là pour justement venir vous aider pendant la période des fêtes. Sur ce, Sylvain, ainsi à toi ainsi que ton équipe, je vous souhaite également de très joyeuses fêtes. C'est un plaisir d'être ici. On se revoit l'année prochaine.
Merci.